Pour introduire ce message, j'ai choisi une image. Une image qui finalement colle super bien avec le chant qu'on a chanté, « Je m'abandonne ». C'est l'image d'un plongeoir. Est-ce que vous savez comment on saute le 10 mètres ? On ferme les yeux ? Non, mais il y a toute une technique. En faisant un pas en avant. Effectivement, c'est ça la technique. Moi, je ne sais pas comment saute le 10 mètres. Je ne l'ai jamais fait, mais je crois qu'il y a deux étapes importantes. La première, c'est de déjà décider de sauter le 10 mètres. Hein, tout le monde ne le ferait pas. Qui le ferait ? Ok, ouais, on va prier pour un esprit de courage. Il y a décidé de sauter le 10 mètres. Et puis, une fois qu'on a décidé, on monte au plongeoir. Et puis, on est au bord du plongeoir. La décision est prise. Mais il faut sauter. Il faut y aller. Et si vous êtes à la piscine un peu observateur, moi, j'aime bien regarder les plongeoirs. Les gens, des fois, ils sont là. Ils regardent en bas. Et ils retournent. C'est deux étapes. Décider de plonger le 10 mètres et puis être au bord du plongeoir et se lancer dans le vide. Faire le pas qui fait que nos pieds seront instables, on sera dans le vide. Alors la semaine dernière, nous faisons une petite série de trois séances sur la reine Esther. Puis la semaine passée, avec le chapitre 4, nous avons vu qu'Esther avait pris cette décision de sauter le 10 mètres. Maintenant, au chapitre 5, on la retrouve au bord du plongeoir. Esther a découvert l'appel que Dieu avait pour elle. Elle s'est résolue à le suivre. Résolue à le suivre, même si cela lui coûtait la mort. Ceux qui étaient là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Si je dois mourir, ben je mourrai. Donc il y a de l'engagement. Hein. J'espère que vous ne dites pas la même chose avant de sauter un 10 mètres quand même. Maintenant, aujourd'hui, on retrouve Esther au bord du plongeoir. Au chapitre 5, elle a fait le saut. Elle se retrouve complètement dans le vide. Et dans ce vide, Esther va découvrir que le courage de la foi ouvre des portes inattendues. Des portes qu'elle n'aurait pas pu voir si elle n'avait pas sauté. J'aimerais lire avec vous ce chapitre 5. 3 jours plus tard, Esther mit sa tenue royale et se tint debout dans la cour intérieure du palais, devant les appartements du roi. Celui-ci était assis sur son trône royal, dans le palais royal, face à l'entrée du bâtiment. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, elle gagna sa faveur. Yes ! Et il lui tendit le sceptre d'or qu'il tenait. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit : Qu'as-tu ? Reine Esther, et que désires-tu ? Même si tu réclames la moitié du royaume, elle te sera donnée. Esther lui répondit : Si tu le juges bon, roi, j'aimerais que tu viennes aujourd'hui avec Aman au banquet que j'ai organisé pour toi. Le roi dit alors : Allez sans tarder chercher Aman pour répondre à l'invitation d'Esther. Et il se rendit avec Aman au banquet que celle-ci avait préparé. Pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther : Quel est l'objet de ta demande ? Il te sera accordé. Que désires-tu ? Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Esther répondit : Ce que je demande est ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et si tu le juges bon de m'accorder l'objet de ma demande et de me satisfaire mon désir, j'aimerais que tu viennes avec Aman au festin que j'organiserai pour vous et c'est demain que je répondrai à ta proposition. Il y a deux invitations, je n'ai pas lu deux fois le même passage. Hein. Maintenant, laissons Esther de côté, puis regardons Aman à la suite. Ce jour-là, Aman repartit content, dans de joyeuses dispositions. Mais lorsqu'il vit Mardoché, toujours à la porte du roi, qui ne se levait toujours pas et ne tremblait toujours pas devant lui, il fut rempli de colère contre lui. Il parvint néanmoins à se contenir et rentra chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et sa femme Zeresh, et il leur exposa point par point la valeur de ses richesses, le grand nombre de ses fils, toute l'importance et tout le pouvoir que le roi lui avait accordé, en le plaçant au-dessus de tous les princes et de ses propres serviteurs. Il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au banquet qu'elle organise, et je suis encore invité pour demain chez elle en compagnie du roi. Cependant, tout cela n'a aucune valeur pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardoché le juif assis à la porte du roi. » Sa femme Zeresh et tous ses amis lui suggèrent alors, « Fais préparer une potence de 25 mètres de haut, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardoché. » Tu pourras ensuite accompagner dans la joie le roi au banquet. » Aman trouva le conseil bon et il fit préparer la potence. Je dis qu'au chapitre 5, Esther faisait le grand saut. Elle a réfléchi à son plan. Maintenant, elle passe à l'action. Elle est entrée dans son appel, qui est de sauver le peuple juif, menacé d'extermination par un décret du roi. Son appel, c'est de tout mettre en œuvre pour empêcher que ce décret se réalise et plaider la cause de son peuple auprès du roi. Elle est entrée dans son appel. Maintenant, elle n'a plus toutes les cartes en main pour décider. Comme quand on saute, on ne peut pas revenir en arrière une fois qu'on est dans le vide. Si la semaine dernière, Esther était un peu hésitante, maintenant, elle met le plan qu'elle a imaginé à exécution. Elle décide seule pour influencer le cours des événements. Je vous avais dit aussi que dans ce livre d'Esther, Dieu était absent. Si on le lit rapidement, il n'y a aucune mention de Dieu. Pourtant, Dieu est présent tout au long du récit et je vais me faire un plaisir de vous donner 2-3 détails techniques où on voit Dieu dans le texte. Si ça ne saute pas aux yeux, c'est en fouillant un petit peu qu'on voit des traces de Dieu. Le texte s'ouvre avec la mention suivante, 3 jours plus tard. Alors quand on lit vite, on se dit, ok, c'est 3 jours après, super. Mais quand on regarde, moi j'aime bien quand il y a des transitions comme ça dans la Bible, 3 jours plus tard, ça nous renvoie à quelque chose. Et c'est 3 jours plus tard de quoi ? De la signature du décret d'extermination des Juifs. Ce décret a été signé, le chapitre 4 nous le dit, le 13e jour du mois de Nisan. 3 jours après, selon le calcul que les Juifs font, ça donne le 15 de Nisan. Alors qu'est-ce que ça change de savoir qu'Esther va voir le roi le 15 de Nisan ? Pour nous, peut-être pas grand-chose, hein. Mais pour les Juifs, ça change tout. Le 15 de Nisan, c'est la Pâque. C'est le moment où le salut divin est célébré par les Juifs. Esther ne va pas à n'importe quelle date. C'est une date forte. Il y a comme cette manière prophétique d'annoncer que Dieu va à nouveau sauver son peuple. Donc si on est attentif, on lit 3 jours après, on se dit, ben ça y est, il y a une marque de Dieu et Dieu veille sur son peuple et il va le sauver. Alors peut-être vous y voyez une coïncidence, moi pas trop. Voilà, ça me montre que Dieu est au contrôle. Et on a déjà une anticipation que Dieu sauvera son peuple. Alors Esther a élaboré un plan. Quel est ce plan ? C'est inviter le roi et Aman à un banquet. Ouais, peut-être tu peux l'enlever. Ouais, ça va perturber les gens. Surtout que c'est en hébreu, ça. Inviter le roi et Aman à un banquet, je crois que c'est la dernière chose que j'aurais faite. Si je dois sauver un peuple, autant le dire tout de suite, poser carte sur table. Tu ne vas pas inviter ton ennemi à un banquet. Mais pour Esther, sauver son peuple commence par approcher le roi en l'invitant à un banquet avec son premier ministre, Aman. Elle le dit, « Si tu le juges bon, roi, j'aimerais que tu viennes aujourd'hui avec Aman au banquet que j'ai organisé pour toi. Si tu le juges bon, roi, s'il te plaît. » On voit qu'il y a une formule de politesse. Esther s'approche du roi avec respect et compétence. Ce qui est intéressant dans le livre d'Esther, c'est que plus les requêtes vont aller de l'avant, plus les formules de politesse seront à rallonge. Si tu le juges bon roi, s'il te plaît. Et ensuite vient la demande. J'aimerais que tu viennes aujourd'hui avec Aman au banquet que j'ai organisé pour toi. Cette demande n'est pas anodine. Cette demande permet que le plan de sauvetage des Juifs soit amorcé. S'il n'y a pas cette demande, il n'y a pas forcément de salut possible. C'est le premier domino de la chaîne qui tombe. Cette demande, c'est un des points de bascule du récit. De cette demande, viens roi, au banquet que j'organise, viens avec Aman. De cette demande-là va dépendre la suite des événements. Cette demande est très importante. J'aimerais que tu viennes aujourd'hui avec Aman au banquet que j'ai organisé. J'aimerais que tu viennes aujourd'hui avec Aman. Le plan de sauvetage des Juifs commence avec cette invitation. Et je me permets d'insister. Ce verset-là est le pivot de ce chapitre 5. Et j'aimerais vous montrer d'autres détails techniques. Peut-être vous y verrez une coïncidence. De nouveau, si je la montre, c'est qu'il n'y a pas de coïncidence pour moi. On peut afficher la slide, voilà. J'aimerais que tu viennes aujourd'hui avec Aman. En hébreu, c'est Yavo Hameler ve Aman Hayom. Ça vous aide pas, hein? Moi, je trouve ça fort parce que la traduction ne m'aide pas, mais quand on prend les premières lettres de chaque mot, slide suivante, voilà, première lettre, Yod, Rev, Het, Vav, Het. On peut passer à la slide suivante. On met les premières lettres des mots. Et ça, c'est Yahvé. C'est beau. Oui, on peut applaudir. Non, vraiment. J'aime dans le livre d'Esther ces petits détails techniques. On peut les voir comme des coïncidences, mais pour moi, il y en a trop pour que ce soit simplement une coïncidence. Ou dès qu'il y a une demande qui est faite, on voit que Dieu est derrière aussi. Quoi qu'il en soit, l'invitation est faite, personne n'est dupe. L'invitation au banquet ne constitue pas la vraie demande d'Esther. Et c'est donc logiquement que le roi va réitérer sa demande de lui adresser son souhait. Une fois qu'on est au banquet, le roi revient vers Esther et dit « Mais finalement, c'est chouette ton banquet, mais c'est quoi ta vraie demande derrière ?» Alors, la réponse d'Esther est étonnante. Verset 8, comme je l'ai dit, les formules de politesse vont à rallonge, vous êtes prêts ?« Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et si tu juges bon de m'accorder l'objet de ma demande et de satisfaire mon désir, j'aimerais que tu viennes avec Aman au festin que j'organiserai pour vous. Et c'est demain que je répondrai à ta proposition. Je n'aurais surtout pas fait ça. » Pourquoi inviter un deuxième banquet? Est-ce qu'elle hésite? Est-ce qu'elle repousse les échéances? Il faut savoir ce que c'est qu'un banquet dans l'Antiquité, notamment chez les Perses. C'est des fous furieux de banquets. Hein. Les banquets, c'était des lieux privilégiés pour faire de la politique, pour mener des discussions, des négociations. Et quand on invite quelqu'un à un banquet, l'hôte, celui qui organise le banquet, est placé dans une position dominante par rapport aux invités. Alors les deux banquets qu'organise Esther renforcent sa relation avec le roi. D'ailleurs, chapitre précédent, on a vu que le roi ne l'avait pas approché pendant 30 jours. Donc il y avait de quoi se poser des questions. Esther, ce qu'elle fait avec ces deux banquets, c'est qu'elle est en train de sécuriser sa position. Je t'invite à un banquet. Ok, mais c'est quoi ta demande? Ben viens à un autre banquet, puis là, cette fois, je te dirai ma demande. Comme si elle plaçait le roi dans une sorte de suspense et d'obligation après pour qu'il cède à la demande. Maintenant qu'on a compris pourquoi un banquet, la question qui me taraude le plus, c'est pourquoi Aman? Pourquoi inviter l'ennemi des Juifs, celui qui a fait faire signer le décret, pourquoi l'inviter aussi au banquet? Est-ce qu'elle veut honorer Aman? Qui pense qu'elle veut l'honorer? Ok, c'est bien, vous avez du bon sens. Esther invite Aman parce que son plan, c'est de le conduire à la disgrâce. La double invitation au banquet montre toute l'astuce et la patience d'Esther. C'est comme si elle souhaitait sécuriser sa position vis-à-vis du roi. Elle place ses pions et puis la partie va se jouer toute seule. Dans le texte hébreu, je ne vous l'ai pas mis là, mais les deux banquets sont qualifiés de banquets de vin. Et on voit que dans le livre d'Esther, il y a beaucoup de vin qui est bu. Je ne sais pas à quel endroit le roi est sobre. Mais on voit que le vin peut exacerber la colère du roi. On voit que sous l'alcool, il y a des décisions royales qui peuvent être prises. Chapitre 1, versets 16 à 20. Alors, quand on comprend ça, que sous l'influence de l'alcool, le roi peut se mettre en colère, je ne suis pas sûr que ce soit un bon plan pour Aman. En invitant Aman à ce banquet, à dîner avec le roi, Esther place Aman dans une position quand même délicate. Si le roi pète un câble, c'est peut-être lui qui est en première cible. Esther, elle n'a rien fait, elle a organisé deux banquets. D'ailleurs, la stratégie d'Esther s'avérera payante puisqu'Aman sera condamné à mort au chapitre 7, au terme du deuxième banquet. Ironie, il sera même mort sur la potence qu'il avait lui-même construite pour Mardoché. Je vous spoil la fin parce qu'on n'aura pas le temps de l'aborder en prédication. On s'arrêtera la semaine prochaine avec le chapitre 6, puis après je serai en vacances. On a deux personnages dans ce récit. On a Aman qui ne remarque rien de ce qui se trame, il ne remarque rien de l'enjeu. Ce personnage n'est dirigé que par son ego. Il est flatté d'être considéré par Esther comme un égal du roi. Je suis le seul qui suis quand même invité à un banquet avec le roi. Je suis supérieur aux autres. Il s'empresse d'aller raconter ça à sa famille et à ses amis, l'invitation qu'il a reçue. Et en chemin, voilà que le pauvre Mardoché ne se lève pas. Alors, Aman se met en colère. Quand on est invité à un banquet avec le roi, ça n'a pas vraiment de sens de se mettre en colère contre quelqu'un qui ne se lève pas, non ? Si je vous invite à un McDo après le culte, si, hein ? Si je vous invite à un McDo après le culte, si quelqu'un ne vous dit pas bonjour à la sortie, ça ne va peut-être pas vous irriter, vous réjouissez. Non, mais c'est bon, je passe dessus parce qu'il y a un McDo, super. Ouais, ça dépend, oui, d'accord, peut-être vous n'êtes pas McDo. Mais vous comprenez l'image. Mais Aman, il s'irrite. Il est frustré. Il ne peut pas profiter de ce banquet tant qu'il y a Mardoché qui est là. Aman en veut toujours plus. Il contrôle chaque détail. Il est impulsif, il est impatient. Et de l'autre côté, nous avons Esther, qui a une attitude noble, respectueuse, qui fait preuve de patience, peut-être trop même, pourquoi faire deux banquets ? Elle est intelligente, elle est rusée, elle a compris les enjeux, elle a compris comment ça fonctionnait dans le royaume perse, elle a compris comment gagner le cœur du roi, elle déploie toute son intelligence pour utiliser ça, pour accomplir son projet de sauver son peuple. Esther sait sûrement aussi qu'elle doit se confier en Dieu pour que son plan aboutisse. Elle sait que mettre en place le plan, c'est se retrouver au bord du plongeoir, à sauter dans le vide. Elle sait qu'elle doit compter sur Dieu pour que ça se passe. Sa mission n'est pas centrée sur elle-même, comme pour Aman, mais elle est centrée sur les autres, sur le bien de son peuple, sur ce que Dieu l'appelle à faire. Alors qu'Aman, lui, il n'y a que lui. Nous voyons dans ce chapitre 5 deux attitudes complètement opposées, celle de la reine Esther et celle d'Aman. Autrement dit, une attitude de vie consacrée à Dieu, qui demande de la patience, de la confiance, de l'intelligence, et une attitude de vie centrée sur elle-même, qui ne demande qu'à avoir de l'ego satisfait. L'ironie de ce chapitre 5, avec ses traits de personnalité très marqués, nous montre toute l'importance d'une vie consacrée à Dieu. Une vie égoïste qui ne recherche que son bonheur peut conduire à sa perte. Alors, j'aimerais vous poser deux questions pour conclure. La première, c'est quand on regarde ces deux personnages, puis on regarde à nous, dans quel domaine ma vie ressemble au modèle d'Esther ? Dans quel domaine de ma vie est-ce que je suis courageux ? Dans quel domaine de ma vie j'ai osé sauter du plongeoir ? Je suis intelligent, j'ai fait preuve de sagesse. Et dans quel domaine ma vie ressemble peut-être plus à celle d'Aman ? Sans aller jusqu'à vouloir tuer quelqu'un, mais simplement, où on dit, mais là, je recherche que mon ego soit flatté. Où on recherche les honneurs, le regard des autres, la gloire personnelle. Cette première question parle de notre posture. Comment est-ce qu'on veut se placer devant Dieu ? Plutôt Esther ou plutôt Aman ? Puis certainement, si on regarde bien, on a des fois un mélange des deux. La deuxième question, c'est que si on se consacre à Dieu, quel est le saut qui m'invite à faire ? Ou alors dit peut-être plus gentiment, quel est le prochain pas ? Mais le prochain pas qui me mènera dans le vide, peut-être. Quelles décisions importantes sont devant moi et qui me demandent de faire un pas ? Quand j'ai écrit cette question, je me suis dit, il y a peut-être des gens qui sont au bord du plongeoir et qui ne savent pas quoi faire. Est-ce que je reviens en arrière ou est-ce que j'ose sauter ? Je sais que Dieu m'appelle à franchir ce pas, à sauter dans le vide, mais j'ai peur, j'ose pas. Comme Esther, ces gens ont peut-être besoin de sagesse, d'intelligence renouvelée. Et en préparant ce culte, quand Anne-France a vu ma tenue, elle m'a dit « Ah, bah, tu vas nous illustrer ton message avec une course ?» J'ai dit « Non, je n'ai pas prévu, c'est parce qu'il fait chaud. » Mais je crois qu'il y a une course aussi à mener. Ce n'est pas juste attendre au bord du plongeoir. Il y a les autres derrière qui veulent passer. Il y a une décision à prendre. Et puis un deuxième mot qui revenait, c'est le mot « urgence ». Alors ce mot, il me plaît bien. Parce qu'au vu de ce qu'on a dit, ce n'est pas urgent se précipiter comme Aman, faire vite les choses de manière impulsive, mais c'est de l'urgence intelligente. Et peut-être que certains sont au bord de ce plongeoir, ils savent qu'il y a un pas à faire, un saut dans le vide, que le plongeur fasse 1 mètre, 3 mètres ou 10 mètres de haut, il y a ce pas à faire. J'aimerais vous laisser quelques instants de silence pour réfléchir à ce pas. Et puis après, je proposerai peut-être un appel, qu'on puisse aussi prier les uns pour les autres. Je pense que c'est important si certaines personnes se sentent au bord de ce plongeoir et sont appelées à faire un pas dans le vide, à prendre un risque. On a vu toute la dimension horizontale aussi de la communauté. Et si vous sentez au bord de ce plongeoir, j'aimerais vous inviter à lever la main de manière authentique. Si vous savez que Dieu vous appelle à une mission peut-être particulière et vous dites, mais là, j'ai peut-être besoin de sagesse, là, j'ai peut-être besoin d'intelligence. Vous pouvez simplement lever la main où vous êtes. Voilà, j'inviterai aussi les gens autour de vous à prier pour vous. Vous êtes d'accord qu'on fasse ça ? Voilà, regardez ceux qui ont la main en l'air. Et puis, je demanderai simplement aux gens qui sont autour de prier pour les personnes qui lèvent la main. Il n'y a pas besoin d'entrer dans des détails, mais simplement que ces gens puissent recevoir l'intelligence, la sagesse aussi, de pouvoir oser sauter, de faire ce pas dans le vide, même si ça coûte. On peut prier à haute voix aussi.